RFI Matin, la suite. Dans 18 minutes, un nouveau journal et l'ouverture prévue des bureaux de vote en Mauritanie pour la présidentielle. Léa Breuil nous appelle de Nouakchott à 7h, temps universel. À suivre d'ici là, Samuel Eto'o. A-t-il été impliqué dans des matchs truqués au Cameroun? L'actuel président de la FECAFOOT était entendu par la CAF cette semaine, son avocat et notre invité. Et puis des papillons qui traversent l'océan, 4000 km de vol sans se poser. L'extraordinaire découverte dont nous parle Caroline Lachowski. Mais d'abord sur RFI, la suite de notre série de reportages dans l'est de la Libye. 9 mois après la tempête Daniel, dévastatrice, la région de la Cyrénaïque est en plein chantier. Notre premier épisode hier vous racontait les grands travaux lancés par les autorités militaires de Khalifa Haftar. Le Parlement reconnu par la communauté internationale a alloué 2 milliards d'euros pour reconstruire la ville de Derna. Le fonds en charge de cette somme est dirigé par Belkacem Haftar, le fils du maréchal, qui a décidé d'utiliser une partie de cet argent pour moderniser la capitale régionale, Benghazi. Une politique du béton pour montrer le dynamisme de la ville face à une sclérose de la capitale Tripoli, contrôlée par le gouvernement rival. C'est un reportage de Mathieu Galtier.
Ce sont de petits pas pour Ayman et Mohamed, mais des pas de géants pour Benghazi.
Je viens chaque jour ou presque pour faire du sport. C'est un grand sentiment de satisfaction et de joie. Souvent, je suis accompagné de ma femme et de ma fille.
J'ai 40 ans et c'est la première fois que j'assiste à un tel progrès. Je suis triste parce que je n'ai pas connu ça.
Chaque jour, depuis décembre, les familles se pressent pour arpenter les 5 km 300 de pistes piétonnes et cyclables qui entourent le lac au centre de Benghazi. La capitale de l'Est n'a pas souffert de la tempête Daniel en septembre. Mais le fonds, en charge de la reconstruction, a profité de la manne financière après la catastrophe pour refaire une beauté à Benghazi. Aguila El-Laba, le responsable de la coopération internationale du fonds, aime se promener sur ces chantiers et constater leur avancée.
Chaque quartier de la ville de Benghazi sera concerné par cette reconstruction. Par exemple, cette place, c'est là où a été proclamée l'indépendance libyenne. Le bâtiment ici était de style colonial italien et nous allons le reconstruire à l'identique.
De nombreux travaux suspendus du temps de Kadhafi ont repris. Des cinémas devraient également ouvrir. Ce serait une première depuis 1969 et l'arrivée au pouvoir de l'ancien guide. Cette politique du béton fonctionne auprès de la population, car elle concerne aussi des infrastructures du quotidien. Abdelkader a ainsi redécouvert son quartier Al-Meshir, au nord de la ville, depuis qu'un parc y a fait son apparition.
Avant, le jardin n'était pas en bon état. Il y avait des poubelles et des égouts, c'était presque une décharge. Maintenant, c'est mieux qu'avant. D'ailleurs, je viens tous les jours. Avec la famille, on reste parfois dîner là.
Même le centre-ville renaît timidement. Ces immeubles éventrés forme une balafre urbaine au cœur de Benghazi depuis 2017 et la victoire des forces de Khalifa Haftar contre des groupes djihadistes. Ramadan tient une bijouterie dans un souk fraîchement réhabilité. Le quadragénaire se félicite que les habitants puissent de nouveau avoir accès au centre-ville.
C'est la fermeture de la route qui cause des embouteillages. Il y aura un retour à la normale quand les ponts en cours de reconstruction seront terminés.
Pour les autorités de Benghazi, ces chantiers permettent aussi de distribuer des contrats à de grandes multinationales. Mathieu Galtier, Benghazi, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Jusqu'où peuvent voler les papillons? Une équipe internationale d'entomologistes vient de démontrer que certains papillons sont capables d'effectuer des vols transatlantiques de plus de 4000 km sans se poser.
Il s'agit des belles dames, ou Vanesse des Chardons, Vanessa Carduy de leur nom scientifique, des papillons migrateurs très répandus de l'Afrique subsaharienne jusqu'au nord de l'Europe en passant par le Moyen-Orient, capables de survoler le Sahara et de parcourir de très longues distances, jusqu'à 15 000 km, lors de leurs migrations annuelles, mais avec escale et de nombreuses pauses pour se remettre. Car au-delà de la métaphore sur les battements d'ailes, l'effet papillon, les chercheurs se sont longtemps demandé expliquer comment les papillons parvenaient à voler aussi bien et aussi loin avec des ailes aussi larges, très courtes et surtout très grandes par rapport à leur taille. Des chercheurs suédois ont d'ailleurs résolu cette énigme du vol des papillons en 2022 en démontrant l'effet soufflet de leurs larges ailes flexibles qui leur permettent de décoller très rapidement et de voler de façon erratique et imprévisible, ce qui leur permet aussi d'échapper aux prédateurs. Mais revenons à nos belles dames qui volettent sur tous les continents, à l'exception de l'Amérique latine, l'océan Atlantique restant leur dernière frontière infranchissable. D'où la surprise de l'entomologiste espagnol Gérard Talavera quand il a découvert sur une plage de Guyane un essaim de belles dames échouées sur le sable. Les ailes trouées, abîmées mais bien vivantes, cet entomologiste formidable chercheur de papillons en a déduit qu'elles venaient de traverser l'océan Atlantique. Hypothèse inédite qui restait à prouver. Notre entomologiste a donc dû mener l'enquête.
Mais comment suivre et retracer le vol des papillons ?
Impossible effectivement de leur mettre une balise sur les ailes. Ce spécialiste des belles dames qu'il repère et photographie sur tous les continents a du coup mis au point en 2018 des outils génétiques pour analyser l'ADN du pollen piégé dans les ailes de ces insectes pollinisateurs. C'est ainsi qu'il réussit à suivre et donc maintenant à retracer la route migratoire de ces papillons. Grâce à cette technique innovante et à d'autres outils isotopiques, Gérard Talavera du Jardin botanique de Barcelone, en collaboration avec une équipe internationale d'entomologistes, a réussi à démontrer que ces belles dames échouées en Guyane avaient bien survolé l'Atlantique. Dans l'étude qui vient de paraître dans la revue scientifique Nature Communication, ils ont démontré non seulement que le pollen collé à leurs ailes était celui de fleurs spécifiques d'Afrique de l'Ouest, des fleurs qui éclosent entre août et novembre, ce qui correspond à la date d'arrivée de ces papillons, mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont aussi étudié le génome de ces belles dames échouées en Guyane et montrer que leurs gènes provenaient à la fois de lignées de papillons d'Afrique et d'Europe, mais pas d'Amérique du Nord. Ce qui prouve là encore qu'elles ont bien réussi un vol transatlantique, 4200 km sans escale. Cette enquête génétique et entomologique, botanique, a aussi été météorologique, avec des conditions météo et surtout des vents favorables. Les scientifiques ont mis en évidence des vents très puissants qui auraient fait dévier ces papillons de leur route migratoire habituelle en Afrique pour les entraîner jusqu'au-dessus de l'océan Atlantique, qu'elles auraient ensuite survolé jusqu'à la côte nord de l'Amérique du Sud pour s'échouer sur cette plage de Guyane. C'est la première fois qu'une telle migration transatlantique de papillons est démontrée, ce qui ouvre la voie à une meilleure compréhension des migrations des insectes pollinisateurs en général et de ces belles dames en particulier qui jouent un grand rôle dans la dissémination des plantes à fleurs, mais aussi des champignons, voire des microbes ou de bactéries transportées d'un océan à l'autre sur des milliers de kilomètres et sur tous les continents par les battements d'ailes des papillons. C'est un autre genre d'effet papillon à explorer.
Jusqu'où va la science chaque samedi. Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question.
Lundi, notre dernière revue de presse scientifique de la saison, avec des magazines à gagner. Et puis mardi, nous tenterons de nous mettre dans le cerveau d'un champion pour découvrir comment rester concentré sans stresser pour donner le meilleur de soi-même.
Merci Caroline Lachowski. C'est une accusation grave contre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. Est-il impliqué dans l'organisation de matchs truqués dans son pays? Si les allégations étaient avérées, elles pourraient lui valoir une suspension à vie de toute activité liée au ballon rond. Et Samuel Eto'o a plaidé non coupable cette semaine devant le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération Africaine de Football. Avec quel argument s'est-il défendu? Pense-t-il être la victime d'un complot politique? Maître Florian Bayen, avocat camerounais du barreau de Paris, était aux côtés d'Eto'o cette semaine au siège de la CAF. Il est notre invité ce matin avec Christophe Boisbouvier.
Maître Florian Bayen, bonjour.
Bonjour.
Que répondez-vous à ceux qui affirment que Samuel Eto'o a été impliqué, il y a 2 ans, dans l'organisation de matchs truqués pour faire monter en première division camerounaise le club de football Victoria United?
Je répondrai que ce serait très mal connaître Monsieur Eto'o, qui a une carrière exemplaire en tant que footballeur, qui n'a jamais été impliqué dans le moindre problème d'éthique durant toute sa pratique du football. Donc c'est en totale contradiction avec ses valeurs, son éthique. C'est des accusations qui sont fantaisistes et qui, à mon avis, révèlent d'autres intentions.
À l'appui de leur dire, les accusateurs ont produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Samuel Eto'o et le président de ce club, Victoria United. Une conversation où les deux interlocuteurs se seraient accordés sur l'impératif de faire monter ce club en première division camerounaise.
Oui, M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Quinn suite à un incident que M. Quinn a déclenché sur un stade de foot, mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange.
Mais le fait est que Victoria United est monté en première division.
Mais il me semble que c'est un club qui est très très bien structuré. Donc il n'est pas étonnant qu'il soit monté en première division. Et n'oubliez pas que ce sont eux les vainqueurs du championnat de cette année. Donc est-ce qu'on va aussi dire que M. Eto'o a favorisé ce titre en première division? C'est complètement inaudible. M. Eto'o nie catégoriquement toute implication.
Samuel Eto'o a donc été longuement auditionné cette semaine au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Comment a-t-il vécu cette épreuve?
C'est une épreuve particulièrement difficile pour M. Eto'o parce que se retrouver cette fois-ci au rang des accusés pour des motifs aussi fallacieux et aussi légers était particulièrement éprouvant. Et c'était d'autant plus éprouvant que c'est tout un tas d'entorses qui ont émaillé ce dossier, qui ont rendu le dossier très, 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 très mal ficelé. Et donc c'est ça qui a entraîné de longues auditions. De nombreux incidents. Il y en a eu une pelletée. Cependant, nous avons foi en l'indépendance de ce jury disciplinaire et nous espérons qu'il saura faire fi de toute intervention extérieure.
Est-ce que vous avez senti, du coup, un président de jury qui vous était hostile?
Non. On a senti un président du jury qui subissait quelque part l'impréparation de la phase administrative, qui était obligé de composer avec. Et donc, il devait gérer toute cette impréparation et aller au bout de son audience. Donc, ça a compliqué plus sa tâche qu'autre chose. Je ne pense pas que ce jury était hostile. On a un magistrat, on avait un avocat, on avait un notaire. C'est des personnes qui sont très aguerries au droit, auxquelles il a fallu, parce que nous sommes la défense, rappeler qu'il existait des droits de la défense et que ces droits s'appliquaient même dans le cadre de l'ex sportiva qui est propre aux organisations de la FIFA.
La loi sportive.
La loi sportive.
Alors, la veille de votre convocation, c'est-à-dire lundi dernier, c'est le principal accusateur, hein, l'ancien vice-président de la FECAFOOT, Henri Njalakouane, qui avait été entendu par le même jury. Est-ce que vous avez senti qu'il avait marqué des points lors de cette audition?
Alors déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas qui est l'accusateur. Factuellement, nous n'avons pas un acte d'accusation ou de dénonciation émanant de ce monsieur. Le seul document au dossier émane d'une association.
Je comprends, maître, je comprends. Le fait est que c'est Henri Njalakouane qui a été auditionné. Quels sont, à votre avis, les mobiles de cet accusateur?
Je ne peux pas y répondre. J'ai cru comprendre que c'était un ancien membre du comité exécutif. Toujours est-il que l'accusation qu'il porte et les éléments sur lesquels il s'appuie sont tellement ténus que... on s'interroge réellement sur l'intention derrière. Je ne pense pas que ce soit l'éthique et le sport qui l'a motivé.
Vous pensez que ça va au-delà du sport?
Je pense que oui, je pense qu'il y a une dominante personnelle derrière. Monsieur Eto'o a plusieurs détracteurs. J'imagine que dans ces détracteurs, il y a des personnalités politiques, peut-être. C'est pas à exclure en tout cas.
Et dans les personnalités politiques qui ne sont pas à exclure, pensez-vous à l'entourage du secrétariat général de la présidence de la République?
Je ne me prononce pas dessus, moi je ne sais pas. Moi, je ne veux pas pointer le doigt. Je vais laisser les gens se faire leur opinion. Moi, je dis que, en tout cas, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses se fassent.
Alors, dans un communiqué, Samuel Eto'o vient de déclarer qu'il continuait de soutenir le président Paul Biya et qu'il n'était en aucune façon, en aucun cas, candidat à la présidence de la République. Mais si demain il quittait la présidence de la FECAFOOT, qu'est-ce qui l'empêcherait de se lancer en politique?
Je ne sais pas. Le fait que ce n'est pas son domaine de compétence. M. Eto'o connaît le foot, fait du foot et ce n'est pas son domaine de compétence. La politique, il ne connaît pas.
Maître Florian Bayenne, merci.
Maître Florian Bayenne, avocat de Samuel Eto'o, invité de Christophe Boisbouvier. Du côté de l'accusation, notez qu'RFI a contacté Henri Njalakouane, ancien vice-président de la FECAFOOT, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Bientôt 7h en temps universel. La L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour.
Nous parlons avec vous aujourd'hui de la grève à l'hebdomadaire Marianne qui a débuté hier matin et s'est achevée hier soir. La crise s'est enclenchée quand la rédaction s'est prononcée contre le rachat de ce titre de presse par un riche entrepreneur, Pierre-Édouard Sterrin.
Oui, une position décidée à l'unanimité jeudi quand les journalistes ont appris dans Le Monde que Pierre-Édouard Sterrin, un milliardaire catholique anti-IVG de 50 ans, avait une très grande proximité avec le Rassemblement National. Son bras droit, François Durvie, patron de son fonds d'investissement Osium, a conseillé le parti pour son programme économique. Un autre lieutenant de Pierre-Édouard Sterrin, Alban Durostu, qui dirige son fonds philanthropique Bien Commun, a proposé ses services pour les investitures. Enfin, et c'est une révélation du magazine Challenge, Pierre-Édouard Sterrin et François Durvie ont racheté en novembre pour 2,5 millions d'euros la propriété familiale à Rueil-Malmaison où vit encore Jean-Marie Le Pen.
Et la société des rédacteurs de Marianne a alors réagi par un communiqué.
Un communiqué qui représente une volte-face par rapport à un précédent communiqué le 21 juin qui avait été approuvé par plus de 60% des journalistes. Les garanties d'indépendance comme un droit de veto sur la nomination du directeur de la rédaction ou un représentant au conseil d'administration semblaient alors suffisants, même si était déjà sortie l'affaire de la vente de la maison de Rueil au Le Pen ou la participation de Pierre-Édouard Sterrin à la production du film du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, avec Studio Canal, contrôlé par Bolloré. Mais avec l'article du Monde, dixit la société des rédacteurs, ce qui apparaissait comme un engagement idéologique individuel se révèle être une entreprise partisane.
Et le vendeur, Daniel Kretinsky, a décidé vendredi de suspendre ses négociations.
Oui, une suspension décidée d'un commun accord avec Pierre-Édouard Sterrin et ce jusqu'au 21 juillet où ils statueront. Mais Denis Oliven, le patron du groupe CMI qui le représente, n'a pas l'air d'opposer une digue républicaine à ce rachat. Il y a bien une proposition alternative emmenée par l'entrepreneur Jean-Martial Lefranc, mais elle ne dépassait pas hier 5 millions d'euros, ce qui semblait insuffisant. Les journalistes de l'Hebdo craignent de vivre une situation déjà connue à iTélé, devenue CNews, Europe 1 ou au Journal du Dimanche, quand la reprise par Bolloré et une orientation à l'extrême droite ont fait fuir la quasi-totalité de la rédaction.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup. Et l'info continue sur la radio du Monde. Il est bientôt 9h à Paris. Le journal de Léa Boutin-Rivière, c'est dans tout juste une minute.
Soul Beats Music et RFI Talent présentent Elias en concert. À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Zangoma, retrouvez l'artiste des Comores et son power trio rock sur la scène du festival Solstice à Châtenay-Malabry près de Paris le 29 juin à 20h. Plus d'infos sur l-azimut.fr.
Les élections législatives françaises sur RFI.
Après la dissolution de l'Assemblée nationale française, le premier tour des élections législatives anticipées s'annonce comme un scrutin décisif. Retrouvez ce dimanche dès 18h TU les résultats et nos analyses avec toute la rédaction mobilisée pour vous informer. Nos journalistes politiques seront sur le terrain pour vous proposer des éditions spéciales à la radio et en numérique et vous faire découvrir les premières réactions en France et à l'international. Les élections législatives françaises, ce dimanche sur RFI et RFI.fr.